Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière ce micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Du 5 au 7 mars prochain, du côté du cégep de Victoriaville, aura lieu le premier colloque bio pour tous. Et Dr Larissa Taxer, elle, professeure agrégée au département de pédiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, va y offrir une conférence destinée au grand public sur l'effet des pesticides sur notre santé, celle de notre famille, de nos enfants, sur l'environnement également. En deuxième partie d'émission, elle nous donne un aperçu de cette rencontre. Mais d'abord, pour l'école secondaire Leblanc de Laval, la participation sportive des jeunes, c'est quelque chose de primordial, de très important. Limitation fonctionnelle ou pas, et le professeur, l'enseignant d'éducation physique, Jerry Lee Stephen, a ça à cœur. Il a compris cela. Et pour lui, un des objectifs, que ce soit par le défi sportif Altergo ou à travers ses classes, c'est que les jeunes puissent découvrir un maximum de sports. Il est là pour nous parler de ses techniques. Bonjour, Jerry.
Oui, bonjour.
Pour vous...
Allô?
Oui, bonjour, je suis bien là. Merci d'être là, d'ailleurs. Pour vos élèves, le défi sportif Altergo, là, qui aura lieu à la fin du mois d'avril, c'est presque des Jeux olympiques.
Oui, effectivement, c'est un moment dans l'année ou dans leur vie où c'est eux les vedettes. Ils se donnent au maximum et ils ont on a toute leur attention. Donc, ils se défoncent, ils se préparent durant toute l'année scolaire. C'est un grand événement.
Ce qu'il y a d'assez particulier à l'école secondaire Leblanc, c'est qu'il y a des élèves qui vivent avec une limitation fonctionnelle, en particulier, si je ne me trompe pas, la déficience intellectuelle, et des oui. enfants aussi qu'on pourrait dire qui ont un développement régulier. Est-ce qu'ils se côtoient dans vos classes, Jerry Lee?
Non. Disons qu'à l'école secondaire Leblanc, il y a le côté régulier et il y a l'adaptation scolaire. Pour commencer, je voudrais vous dire que j'enseigne en team teaching avec mon ami et collègue Larry Lacopo. Donc, on jumelle les classes d'intégration. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les plus vieux avec les plus jeunes et ça permet un développement des plus jeunes comme tel. Nos classes en déficience ne font pas les mêmes cours, ne font pas les cours d'éducation physique avec les élèves du régulier. C'est un avantage pour nous d'évoluer dans une polyvalente, si je pourrais m'exprimer ainsi, c'est parce que on peut utiliser les gymnases et la piste d'athlétisme.
Mm-hmm.
Ce qu'on ne pourrait pas faire si on était dans une école spécialisée. On n'aurait pas toutes les infrastructures d'une école régulière. Donc, nos jeunes peuvent utiliser ces infrastructures. Ça, c'est un avantage.
Mm-hmm. Est-ce qu'ils se côtoient toutefois, par exemple, lors du défi sportif, est-ce que vous invitez les jeunes du régulier à encourager?
Oui. Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait, vu nous sommes une cinquantaine d'élèves, on a quatre groupes en intégration, on participe au défi sportif toute la semaine. Donc, les élèves de la pratique sportive, de différents niveaux, viennent avec nous durant les journées du défi sportif et parrainent mm-hmm. nos élèves durant la semaine. Donc, ils les coachent un peu, ils les aident. Donc, on emmène une trentaine d'élèves de la pratique sportive durant toute la semaine. Donc, ils aident, ils côtoient les élèves en intégration. Donc là, ça c'est un bon jumelage, comme c'est une bonne intégration.
Et ça amène quoi à ces jeunes, autant d'un côté que de l'autre?
Bien, c'est une image vaut mille mots. Hein.
Oui.
Ils s'aperçoivent que nos jeunes en intégration peuvent faire de belles choses, peuvent courir, peuvent lancer, peuvent jouer au hockey, peuvent jouer au basketball. Ils sont en mesure de, tout en respectant leurs limites, accomplir de très belles performances.
Mm-hmm.
Donc, ça ouvre les yeux à la clientèle qui n'est pas habituée à côtoyer régulièrement bien des élèves qui ont une déficience.
D'entrée de jeu, Jerry-Lee, je le disais, votre objectif à vous, c'est d'inciter, d'encourager les jeunes qui ont une déficience intellectuelle à pratiquer un maximum de sport. Vous vous prenez de quelle façon pour y arriver?
La manière qu'on s'y prend, c'est qu'on adapte, parce que nous, la déficience, maintenant, le ministère, auparavant, il y avait une déficience légère où, à laquelle on pouvait, en tout cas à Laval, à laquelle j'enseignais maintenant, donc là, la déficience, il y a la déficience moyenne et lourde. Donc, c'est tout à fait différent parce que la déficience légère, ils ont tendance à les intégrer beaucoup au régulier. Mm-hmm. Donc, la déficience moyenne à lourde, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte tous les sports selon leur niveau. Mm-hmm. On les adapte comme au volleyball, on ne va pas jouer avec un vrai ballon de volleyball, on va jouer avec un ballon qui est un ballon omnikin, qui est plus gros, comme un ballon de plage. Ensuite, on va adapter des jeux comme ballon chasseur, on va faire du ballon but, et c'est adapté à leur niveau. On fait tous les sports que des élèves au régulier feraient, mais on adapte les règlements pour faciliter leur apprentissage.
Vous simplifiez les consignes aussi, j'imagine?
Oui. Oui, on simplifie tout jusqu'à temps que, bien, selon leur vitesse, ils sont aptes à participer. Parce que si vous jouez au hockey avec des joueurs qui jouent junior majeur, bien si vous touchez jamais à la rondelle, vous ne bougerez jamais.
Oui.
Donc c'est ce qu'ils font. Donc on adapte toujours nos jeux, nos sports à leur rythme.
Et pour eux, bien sûr, ça a des avantages, mais pour vous, c'est quoi les bénéfices qu'ils peuvent récolter, ces jeunes?
Je comprends pas la question.
À pratiquer pour plusieurs sports comme ça, ces jeunes-là.
OK. Mais ce que ça permet, c'est que ça leur permet d'augmenter leur coordination au niveau des membres inférieurs et supérieurs, et ils peuvent mieux fonctionner dans la vie courante. Parce que souvent, nos jeunes, jusqu'à 21 ans, on les a jusqu'à 21 ans d'habitude, des fois, ils font des stages à l'extérieur dans des entreprises. Mais le fait de stimuler plusieurs sens, bien, lorsqu'ils sont dans la vie courante, bien, leur coordination s'améliore. Donc, c'est bénéfique pour eux.
Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont des préférences?
Oui, ils aiment beaucoup le jeu qu'on a modifié, ballon but. C'est une version du ballon chasseur. Ça, ils aiment ce jeu-là. Et puis, ils aiment le volleyball qu'on a modifié. Ils aiment le hockey.
Mm-hmm.
Et le soccer aussi est très... est très prisé aussi.
Est-ce que ce sont les compétitions que vous préparez pour le défi sportif, Jerry-Lee?
Oui. Disons que nous, ils sont prêts, ça fait déjà au-dessus de 10 ans qu'on participe au défi sportif.
Oui, vous êtes très impliqué du côté de l'école secondaire, Lemire. Oui.
Oui, donc dès le mois de septembre, on a la chance d'avoir une petite athlétique à l'école, donc on les prépare à travers des... On les prépare aux différentes disciplines en athlétisme qu'il y a au défi sportif. Donc, dès septembre, je vous dirais, c'est une préparation. Mais entre ça aussi, on fait des jeux et tout, mais la préparation commence dès que l'école commence.
Mm-hmm. En terminant, Jerry-Lee, je sais que pour les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle, participer au défi sportif, ça peut donner des papillons, ils peuvent être anxieux également à l'approche du défi. Comment vous les préparez? Est-ce que ça demeure, malgré la préparation, un défi pour eux?
Non, ben, oui, c'est un défi. Comment je pourrais dire? Il faut... Moi, quand j'enseigne, c'est que je me mets toujours à la place de mes élèves. Comment je voudrais qu'un prof me prépare à une mm-hmm. compétition. Et je leur dis toujours, écoutez, le défi, c'est selon ce que tu veux, toi, en faire. Si tu y vas, puis juste le fait d'y aller et de participer, bien moi, je vais te préparer pour. Tu vas être content.
Mm-hmm.
Si ton objectif, c'est de gagner une médaille, bien, Jerry et Larry vont te préparer pour que tu puisses avoir la chance d'avoir une médaille. Je vais toujours te préparer pour, mais c'est le défi sportif, c'est ton défi à toi.
Oui.
C'est ce que tu veux en faire. Donc, tous nos élèves sont prêts, bien, si tu veux passer une belle semaine, puis tu as l'opportunité de faire de faire beaucoup de connaissances, bien, c'est parfait. Le fait de participer au marathon, bien, toi, c'est juste le fait d'être là, c'est parfait. Bien, tu seras prêt.
Oui.
Si toi, ton besoin, c'est de, je veux performer, je veux me prouver, bien, tu seras prêt toi aussi.
Donc, maximum de préparation pour un maximum de plaisir.
Oui.
Ce sera un plaisir de vous y croiser. C'est du 27 avril au 3 mai. Bonne préparation, Jerry-Lee Stephen. Je rappelle, vous êtes enseignant d'éducation physique à l'école Leblanc avec des jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et votre défi, c'est de les intéresser à un maximum de sport. Et on entend bien que ça semble bien fonctionner.
Écoutez, bien, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps d'avoir un intérêt pour nous. Je voudrais vous remercier.
Ben, ça me fait un grand plaisir. Au revoir, au plaisir.
Merci. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _ M.
Docteur Larissa Taxer, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous présentez le 7 mars prochain au Cégep de Victoriaville une conférence sur l'effet des contaminants sur notre santé, celle de notre famille, sur l'environnement également. Bien sûr, première question, parce que, bon, c'est une conférence qui s'adresse au grand public et c'est un petit peu, c'est le ton que j'ai envie de donner à notre discussion d'aujourd'hui. Un contaminant, c'est quoi?
Un contaminant, c'est effectivement une bonne question parce que, vous savez, on dit que l'arsenic, par exemple, c'est un contaminant, mais il est présent dans le milieu naturel.
Ouais.
Donc, quand on parle de contaminant, on parle d'une substance ou d'un élément qui peuvent affecter notre santé, finalement, et qui n'ont pas de rôle physiologique, en fait, ils n'ont pas de rôle biologique. Et souvent, on parle des produits d'origine industrielle, donc faite par les êtres humains, mais aussi il y a des contaminants d'origine naturelle.
Mm-hmm. Un contaminant, ça peut être un pesticide aussi?
Oui, pesticide, ça peut être des choses qu'on ajoute dans les plastiques, ça peut être aussi des choses naturelles comme mercure, mais mercure est présent déjà dans la croûte terrestre.
Ouais. Et à vous entendre, on en retrouve dans beaucoup de choses, dans la nourriture, dans le plastique. Donc, du plastique, on sait qu'on en a beaucoup dans notre quotidien. On peut en retrouver où, des contaminants aussi?
On trouve également beaucoup dans les cosmétiques.
Mm-hmm.
Donc, ça, il s'agit d'une gamme de produits qui sont très peu contrôlés. Mais la source principale actuellement, c'est l'air intérieur. Donc, vu qu'on vit dans le monde assez isolé, on veut isoler la chaleur, là. Donc les maisons sont construites comme ça, qu'on capte tout, on garde à l'intérieur de la maison tout ce que les produits de consommation dégagent. Et donc, la poussière dans les maisons contient beaucoup de contaminants.
Ah oui.
Mixture de contaminants. Donc, deuxième source, c'est l'air intérieur. Et troisième source importante, c'est l'alimentation.
Mm-hmm. Et on en retrouve aussi dans tous les bidules, les objets électroniques, ordinateurs, téléphones portables aussi, j'imagine.
Oui, mais en fait, ces plastiques-là dégagent les substances potentiellement toxiques. Je ne dis pas qu'ils sont toutes toxiques. Mm-hmm. Mais ils dégagent ça dans l'air intérieur. Donc, ces substances se lient à la poussière très fine qui ne peut pas être absorbée, retenue par l'aspirateur, par exemple.
Mm-hmm. Bon, vous le disiez tout à l'heure, concernant les cosmétiques, il y a peu de réglementation, mais en ce qui a trait aux contaminants en général, est-ce que le Canada propose des règlements pour contrôler la quantité de contaminants sur notre quotidien?
Les réglementations, moi je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais je sais que en général, les réglementations au Canada sont calquées sur les réglementations américaines. Mm-hmm. Donc on gère chaque substance une par une, mais juste pour vous donner un exemple, on a déjà sur la liste des substances toxiques plus que 84 000 substances.
Wow.
On a, durant 50 dernières années, on a réglementé peut-être une vingtaine, évalué vingtaine.
Sur 84
000. Oui. Donc, quand je parle évalué, ça veut dire que pour donner une dose admissible, une dose de toxicité acceptable, etc. Donc, on peut se prononcer sur ces substances-là. Donc, si on continue à ce rythme-là, il nous faut des milliers d'années. Donc, définitivement pas une approche qui va régler le problème demain.
Mm-hmm. On va parler plus tard de l'impact sur la santé humaine, bien sûr, mais juste avant, je voulais vous poser des questions sur l'impact de ces produits-là sur l'environnement, c'est-à-dire sur l'eau, sur nos sols, sur la végétation. J'imagine qu'il y en a un assez important.
Oui, je ne sais pas comment ça impacte la santé de l'écosystème, mais ce que je peux dire est que même l'eau souterraine, l'eau artésienne, contient maintenant des traces de centaines de substances. Et même si on parle, par exemple, de bisphénol A, vous savez, tous les produits qui ont dit maintenant BPA-free, sans BPA, tout ça. Donc, c'est une substance qui ressemble aux estrogènes, donc aux hormones naturelles. Et bisphénol A n'est pas persistant, donc il est dégradable. Mais on produit le bisphénol A et on le relâche dans l'écosystème à tel rythme qu'on peut le trouver sans problème dans l'eau souterraine. Donc, en fait, l'écosystème est juste imbibé des contaminants. Et on trouve même les produits pharmaceutiques dans l'eau souterraine, à faible concentration, mais quand même, on les trouve. Le même Tylenol, par exemple, l'ibuprofène, donc ceux que les gens utilisent. Nous sommes nombreux et malheureusement, ça fait partie maintenant de l'écosystème, toutes ces substances-là.
Mm-hmm. Tout à l'heure, vous parliez que dans la poussière, il peut avoir des contaminants. Est-ce que ça s'absorbe? Bon, on peut penser qu'on respire la poussière que l'on retrouve dans notre maison. Est-ce que c'est une façon que notre corps a d'absorber les voies aériennes?
Oui. Les poumons, en fait, sont susceptibles d'absorber comme à 100% pratiquement les substances. Je peux vous donner un exemple comme manganèse. Manganèse, c'est un métal. Si on le mange, ben on absorbe par l'intestin juste 2%, maximum peut-être 5%. Mais si on respire le manganèse, c'est à 100% qu'on absorbe. C'est pour cela que d'ailleurs le manganèse qui a été ajouté dans l'essence pour les voitures, maintenant est retiré. Mm-hmm. Parce que les gens pouvaient carrément s'intoxiquer au manganèse, les gens qui travaillent dans le garage. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est valable pour plein d'autres substances. Et surtout, les enfants qui sont plus proches du sol, donc ils absorbent plus de poussière. Et dans la même famille, un enfant peut être 5 fois plus contaminé que ses parents.
Mm-hmm. Et j'aurais envie de dire, bon, OK, ça nous incite à faire le ménage, mais en même temps, il y a des produits chimiques, des contaminants aussi dans les produits d'entretien ménager. Donc, en fait, ça s'annule un peu.
Oui, mais dans les produits ménagers, on peut faire le ménage avec des choses très simples, hein, des choses de grammaire, hein, comme le bicarbonate de soude, le vinaigre, ça fait la job. Donc, les gens qui cherchent absolument une petite saveur, odeur, parfum, ben en fait, ils se font avoir parce que effectivement, pour fabriquer ce genre de choses, on utilise des substances chimiques. Mm-hmm. Et souvent, c'est des allergènes, etc. Donc, pour le ménage, il y a des solutions assez simples.
Uh-huh. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours d'entrée de jeu. On parlait de l'absorption, oui, je vais y arriver, de ces produits-là pour le corps humain. On parlait de par nos poumons. On parlait aussi qu'on peut les manger. Ça a un peu moins d'impact, vous nous l'apprenez, Larissa Taxer. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je pense aux cosmétiques, c'est le contact avec la peau. Est-ce que la peau absorbe aisément ces contaminants-là?
Oui, je ne sais pas pourquoi, mais dans notre culture actuellement, on pense que la peau, c'est quelque chose comme une feuille de papier, quelque chose de pas vivant. Mais en fait, la peau, c'est vraiment un organe vivant. Hein. C'est, par exemple, dans la peau, il y a beaucoup de cellules du système immunitaire qui sont implantées et qui capture tout ce qu'on met sur la peau. Donc, ces modes de tatou, de crèmes, même des crèmes solaires, utilisées en abondance. On est en Amérique du Nord, on n'est pas toujours à risque d'être brûlé à chaque 5 minutes de soleil. On manque de vitamine D, même, souvent. Donc, cette manie de mettre les crèmes sur la peau et même banalisation de crèmes chez les enfants. Donc, ça fait en sorte qu'on les absorbe facilement, directement dans le sang. Tandis que quand on absorbe les choses par l'intestin, le sang qui ramasse les choses de l'intestin, il va directement dans le foie. Et le foie est capable un peu de nettoyer les substances. Tandis que par la peau, les substances vont directement dans le sang. Donc, ils n'ont pas la chance de passer par le foie. Et donc, ça aussi, c'est une partie de nos rituels actuels. Là. C'est beaucoup de cosmétiques qui ont banalisé ça, mais la peau est vivante et le système immunitaire est là. Et si un jour on développe une allergie, il ne faut pas s'étonner parce que notre mode de vie est un peu...
Oui. Larissa, est-ce qu'il faudrait se tourner vers des cosmétiques ou des lotions solaires bio?
Il faut aussi faire un peu attention à ça parce que les lotions bio peuvent contenir les huiles essentielles qui viennent de plantes et souvent ces huiles-là peuvent être allergènes juste naturellement. Par exemple, l'huile de géranium qui est utilisée pratiquement dans tous les cosmétiques est très, très allergène.
Okay.
Donc, ils peuvent déclencher les réactions. Mais moi, je dirais qu'en fait, on a pas tellement besoin de crème dans la vie.
Okay.
Vous savez, la peau, elle peut s'hydrater si on lui donne la chance lui-même, mais c'est juste qu'on rentre dans cette mode-là. Et souvent, même le sentiment de fraîcheur que nous avons après avoir appliqué une crème, ça vient juste du fait que la crème, elle irrite la peau. Donc, c'est juste un faux sentiment.
Mm-hmm.
Donc, en fait, on endommage la peau et ensuite, elle devient encore sèche et ça rentre dans le cercle vicieux. Vous voyez? Donc, moi, je dirais que oui, effectivement, si on prend les crèmes à la base d'huile d'olive, des choses qui sont déjà prouvées, comme l'huile d'amande, pas trop allergène, oui. Mais tout ce qui est parfumé...
Moi, j'utilise l'huile de jojoba. Est-ce que c'est bien ça, Larissa?
je pense que oui. Il y a des comme le karité et tout ça. Il y a des choses qui sont prouvées déjà, mais... les choses qui sentent, comme l'huile de géranium, il y a même des dermatologues qui sonnent l'alarme actuellement, qui peut-être y a trop d'allergies justement liées à l'utilisation des cosmétiques.
Vous parlez beaucoup des allergies. J'imagine que ce n'est pas le seul impact sur la santé des humains, sur celle des enfants également. Quels sont les autres impacts sur notre santé?
Mais je parle des allergies parce que c'est plus impressionnant que d'autres choses. Ça se développe vite et donc les gens font le lien assez rapidement. Mais effectivement, les maladies chroniques actuelles, comme l'hypothyroïdie, vous savez, le manque d'hormones thyroïdiennes, sont en lien avec les contaminants environnementaux, les cancers, il y a un consensus scientifique comme quoi jusqu'à 80% de cancers sont liés à la mode de vie et aux facteurs environnementaux. Il y a très peu de cancers qui sont uniquement liés aux gènes en particulier. Donc, si on parle aussi des problèmes de neurodéveloppement comme troubles d'attention chez les enfants, donc, on voit ça dans notre laboratoire. On peut rendre un animal complètement normal, un animal hyperactif. Donc, toutes sortes de maladies chroniques, diabète probablement aussi.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque d'être affectés par les contaminants?
Oui, effectivement, il y a des gens qui sont plus à risque, mais vous savez, nous avons 23 000 gènes, donc on ne peut pas faire... étudier toutes les combinaisons possibles pour le moment. Mais effectivement, ceux qui sont les plus à risque, c'est les jeunes enfants. Et même avant la naissance, le fœtus, l'embryo, ils sont très à risque parce qu'ils ne sont pas capables de nettoyer leur corps, ils ne sont pas capables d'éliminer les substances. Donc, ils subissent l'environnement que la mère leur donne. Il y a très peu de recherches là-dessus, mais on pense que le cerveau en vieillissement, donc les personnes âgées doivent être aussi à risque, mais il y a très, très peu de recherches là-dessus.
Il y en a plus sur les femmes enceintes et leur fœtus, donc.
Oui.
Donc, les femmes enceintes devraient prendre encore plus attention à leur contact avec les pesticides et les différents contaminants.
Oui, je dirais que les femmes enceintes plus les familles avec les enfants.
Ouais.
Mais ça implique les changements dans la mode de vie et je dirais même dans la philosophie. Parce que, vous savez, les enfants, maintenant, les premières choses qu'ils touchent, c'est les choses en plastique.
Oui, les jouets sont en plastique bien souvent.
Donc, cette génération-là qui a grandi avec le plastique, pour eux, le plastique, ça procure le sentiment de sécurité, etc. Ils pensent que le monde est comme ça, vous voyez. Ouais. Donc, on a déjà généré deux générations, probablement, qui sont attachées au plastique.
Oui.
Et comment voulez-vous que ces parents-là, ces futurs parents, vont retirer le plastique de l'environnement de leur enfant? Donc, c'est plus que les réflexes. Ça demande une remise en question profonde.
Oui. En terminant, parce que le temps file très rapidement, Larissa, et je sais que vous allez le faire le 7 mars prochain à travers cette conférence au Cégep de Victoriaville, des conseils pratiques pour les familles, pour justement peut-être changer ces modes de vie-là et tranquillement changer les philosophies?
Oui, bien, effectivement, je vais donner toute une série de conseils. Donc, je peux passer à travers maintenant, mais il y a des choses que nous pouvons faire assez facilement. Je sais que les gens sont submergés par toute l'information qui vient sur l'environnement et ils sont bombardés par les choses. Ça, c'est toxique. Mais pragmatiquement, on peut gérer les choses et on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes sans que nos autorités réglementent.
Oui. Donc, on coupe le plastique, on remplace, j'imagine, les jouets, ce qui est les Tupperware aussi, tranquillement, et aussi pour ce qui est des produits d'entretien ménager. Autre chose, rapidement, qu'on peut changer aisément?
Ne pas chauffer le plastique dans le micro-ondes, donc en contact de la nourriture. Ça, c'est la première chose. On voit ça systématiquement dans les écoles primaires, au lunch. Les superviseurs exigent que les enfants apportent le plat plastique, mais en fait, c'est pas un bon conseil. Il faut que ça soit un Pyrex. Et en fait, il faut qu'on change ça.
Tranquillement. Alors, j'invite bien sûr les gens à assister à votre conférence, Dr. Larissa Ataxer. Vous êtes professeure agrégée au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, www.cetab.org. Là, on mettra ça sur notre site, bien sûr, pour en savoir davantage. Merci beaucoup, ça a été très éclairant.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Marianne Paquette derrière ce micro qui vous remercie d'avoir été là. Jean-Sébastien Laliberté derrière la régie. On sera là toute la semaine, rendez-vous 14h, en rediffusion 17h. Et puis, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter et Facebook. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.